Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews culture et histoire de Timeline. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec le Salon Histoire de Lire à Versailles. J'ai la chance de recevoir Sylvain Venner, qui est historien, professeur, essayiste, scénariste BD. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors, je vous reçois pour l'épicerie du monde, la mondialisation par les produits alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours. Déjà, pour mieux vous connaître, qu'est-ce qui vous a amené à l'histoire, en général? C'était bon. La semaine dernière.
Ah oui. On ne peut pas trop savoir ça, mais j'avais une famille qui aimait ça. Ouais. Je crois que mon père aurait aimé être professeur d'histoire. En tout cas, il l'avait...
Il n'y a pas eu un moment déclencheur, un livre déclencheur, un film,
non, je
une copine, un copain?
Non, je pense que les, des petites séries comme la bande dessinée, l'histoire de France l'histoire, en bande
oui,
dessinée.
Oui, exact, je me souviens de ça, c'était bien ça.
Ou ce qu'il y avait aussi, ce dessin animé qui passait sur...
Sur FR3.
Sur FR3, ouais. Qui s'appelait « Il était une fois l'homme ».
Il était une fois l'homme, on a tous rêvé là-dessus, effectivement.
Qui me plaisait, ouais.
Alors, comment est-ce que je dois définir votre livre, « L'épicerie du monde » C'est quoi? C'est, d'abord, c'est écrit à plusieurs mains, puisque, en fait, chaque... comment on peut dire? C'est quoi? C'est un dictionnaire? C'est quoi? Comment vous le définissez?
Un dictionnaire, j'aimerais mieux pas, mais... mais oui, c'est un collectif.
Un collectif,
avec tous les avantages du collectif, qui fait que les maîtres d'œuvre de l'opération, c'est Pierre Saint-Garavelou, moi-même.
Je vous remercie de le dire à ma place, parce que ce n'est pas facile. Saint-Garavelou.
mais aussi Pauline Labbé, notre éditrice, Sophie Hogg, notre autre éditrice. Ben, on apprend énormément grâce aux autres.
Hein. Oui, c'est une vraie co-direction. Chaque sujet a son spécialiste, hein, ça on peut dire. Est-ce que c'est vraiment des spécialistes du sujet?
Alors,
parce qu'en fait, c'est des historiens, mais pas des spécialistes, on va dire, gastronomie ou...
La gastronomie, non, mais il y a quand même des historiens de l'alimentation.
D'accord.
Florent Quellier, qui a fait l'article sur le sucre, par exemple, ouais. C'était l'auteur il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, d'une énorme, monumentale histoire de l'alimentation qu'il avait dirigée, en fait, lui également avec une équipe. Mais effectivement, ce ne sont pas nécessairement des spécialistes des sujets, à commencer par moi d'ailleurs, hein, sur les 2 sujets dont je me suis occupé. Mais ce sont tous des historiens. C'est-à-dire qu'on leur demande quand même de mettre en œuvre leur méthodologie, leur approche du passé, au service de sujets que... Alors, soit on leur impose. Par exemple, nous, on voulait absolument qu'il y ait une entrée sur les frites.
Ah, les frites, ça.
Curieusement, il n'y a oui. pas d'historien des frites. Donc, il a bien fallu que quelqu'un accepte de faire le travail. Et c'est aussi... On a beaucoup travaillé, il faut le reconnaître aussi. Alors, pas tous, hein, mais on a aussi beaucoup travaillé à partir de seconde main. D'abord, pour commencer, l'histoire de l'alimentation, de façon générale, c'est pas quelque chose qui est très développé en France, contrairement justement aux États-Unis, où il existe des food studies. Donc, sur ce modèle américain, hein, où on définit un champ de recherche, non pas à partir de la méthode, mais à partir de l'objet.
D'accord.
Donc, vous faites des food studies, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'alimentation, mais vous pouvez être historien, littéraire, anthropologue, sociologue. C'est l'objet qui définit le champ, en quelque sorte. En France, pas trop. Ce qui fait que la bibliographie, si on la résume, hein, la bibliographie de ce livre, elle est quand même, je pense, à moitié anglo-américaine.
Oui, beaucoup. Oui, c'est vrai. Effectivement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le tome 3 suite à l'histoire du monde et le magasin du monde?
On peut le dire. Alors, c'est le tome 2 par rapport au magasin du monde. Mais l'idée est venue quand on a dirigé, toujours avec Pierre Saint-Garavelou, cette énorme histoire du monde au 19e siècle qui est parue chez Fayard en 2017, qui depuis a été en poche, mais surtout qui nous avait occupé 8 ans. Et c'était en fait en travaillant sur cette histoire du monde au 19e siècle qu'on avait consacré une des 4 parties du livre à ce qu'on avait appelé à l'époque déjà, cette partie s'appelait le magasin du monde, c'est-à-dire aux objets. Et pourquoi? Parce que notre intuition à l'époque, c'était que si on voulait faire une histoire, tenter une histoire qui soit une histoire du monde, puisque je pense que toute histoire du monde n'est jamais qu'une tentative d'histoire du monde, on ne peut pas y arriver. Il fallait essayer de prendre en compte l'humanité tout entière. Et donc, pour prendre l'humanité tout entière, une mauvaise façon de s'y prendre, nous semblait-il, mais on ne se fait pas des amis en disant ça, évidemment, c'était de faire l'histoire de la circulation des livres. Puisque ça avait été d'ailleurs fait dans un des livres qui nous avait servi de modèle à l'époque, qui était l'histoire du monde au 15e siècle. Si vous faites l'histoire de la circulation des livres, alors au 19e siècle, c'est passionnant, hein, vous faites l'histoire de la circulation de l'origine des espèces, par exemple, de Darwin. Ou du capital de Marx, ou que sais-je. C'est évidemment très intéressant, mais vous excluez de votre projet tous les gens qui ne savent pas lire ou tous les gens qui savent mal lire ou qui ont désappris à lire. Alors que quand on fait une histoire des objets, ce qu'on avait fait dans le magasin du Monde, ou une histoire de l'alimentation, alors évidemment, on fait toujours cette histoire à partir de sources, à partir de textes écrits. Mais on fait une histoire qui concerne tout le monde, puisque tout le monde manipule les objets, tout le monde mange.
A priori, tout le monde mange. Effectivement. C'est un livre, quand je l'ai lu, je me disais, mais ça, c'est génial pour Noël, pour passer les fêtes en famille ou avec des amis, pour se sentir un peu savant.
Mais je compte l'amener à ma mère, d'ailleurs, à Noël.
Du coup, achetez-le pour vos soirées, ça va être sympa. Effectivement, c'était quoi le but d'abord, comment vous avez l'idée de ça, de dire, on va en faire un livre, et combien de temps ça prend?
Alors l'idée était arrivée avant, quand on a fait ce magasin du Monde, qui était une histoire de la mondialisation par les objets. L'idée est assez simple, hein, c'était d'essayer de lutter contre un des travers des gens qui font souvent l'histoire du monde, qui est de penser en termes de diffusion à partir de l'Occident. Alors si je prends les frites, par exemple, c'est un très mauvais exemple, mais, ou le burger, ou même le ketchup.
Oui, il n'y a pas d'exemple de frites en Chine au XIVe siècle.
Non, mais d'abord, on ne va pas jusqu'au XIVe siècle. Hein.
Non, c'est l'autre. XVIIIe.
Alors, on remonte souvent très en amont, parce qu'en fait, toute une partie de l'alimentation ne commence pas avec le XVIIIe. Mais au XVIIIe, il y a trois mouvements, disons, qui se mettent en place à partir de la fin du XVIIIe et qui justifient qu'on puisse commencer au XVIIIe siècle. Bon, il y a une raison un peu technique qui n'a rien à voir avec ça, c'est que vous savez sûrement que les historiens sont spécialistes de telle ou telle époque, et qu'un spécialiste de l'époque contemporaine est en général très très mal à l'aise à l'époque médiévale. Donc c'est, quand on réunit une équipe,
c'est pas faux.
Il faut faire ça comme ça. Mais en même temps, fin XVIIIe, trois mouvements qui nous paraissaient définir un nouvel âge de l'histoire de l'alimentation et qui justifient d'ailleurs le terme d'épicerie, puisque l'épicerie moderne naît dans le courant du XVIIIe siècle. Ben, le premier de ces mouvements, c'est celui qu'on connaît bien, qui a donné déjà lieu à beaucoup de livres. C'est le mouvement de construction des identités nationales, hein, ça c'est bien connu, mais aussi des identités régionales ou des identités supranationales. Et l'histoire de l'alimentation est partie prenante de ça, puisque toute une série de plats sont devenus des marqueurs identitaires. Alors, vous n'allez peut-être pas me demander quel est mon plat préféré, mais un de mes plats préférés, parce que je tiens à la recette de ma grand-mère et qu'elle est vraiment remarquable, c'est le cassoulet. Ah, le cassoulet, c'est une...
Avec tomate ou sans tomate?
Sans tomate.
Le vrai, le cassoulet de Castelnaudary.
Bon. Ma grand-mère était de Carcassonne. Bon, voilà, ça, on a des marqueurs identitaires. Le cassoulet, c'est de Castelnaudary ou de Carcassonne ou de Toulouse. C'est plus compliqué. Mais ça peut être vrai de plats nationaux. Donc l'exemple qui est dans le livre que j'aime bien, c'est la pizza Margarita que vous connaissez tous, puisque quand on la présente à la reine Marguerite de Savoie en 1889, l'idée est que celle-ci a beaucoup apprécié cette pizza, notamment parce que le rouge de la tomate, le blanc de la mozzarella et le vert du basilic représentent le nouveau drapeau italien. Exact. Donc cette pizza devient Margarita en l'honneur de Marguerite de Savoie et devient un marqueur identitaire national. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place à partir de la fin du XVIIIe. Une deuxième raison, c'est évidemment le grand mouvement d'industrialisation qui, lui, démarre dans ces années-là, fin XVIIIe, début XIXe, bon, ça dépend des lieux, évidemment, mais va complètement transformer notre alimentation pour le meilleur et pour le pire, bien sûr. Et puis le dernier mouvement, c'est l'accélération des circulations qu'on peut voir de plein de façons, soit à travers une histoire que moi je connais bien parce que je viens plutôt de là, qui est l'histoire des transports et des communications qui va révolutionner l'alimentation mondiale, mais aussi la grande accélération des migrations, puisque le grand siècle des migrations à l'échelle du monde démarre aux alentours de 1830 et s'achève aux alentours de 1920 et bouleverse complètement l'histoire de l'alimentation.
Effectivement. On a l'impression à vous lire, en général, hein, pas que dans celui-ci, mais en général, c'est que le monde, c'est toujours la mondialisation, c'est toujours le monde, un grand village. On pourrait imaginer la même chose, l'épicerie en France?
Oui, mais ce serait sur la même période, ça nous donnerait la même chose. C'est-à-dire qu'on aurait...
Non, sur une autre période, justement.
Ah, sur une autre période.
Sur une autre période.
Sur une autre période, c'est compliqué, parce que ça pose toujours la question décisive dès lors qu'on fait de l'histoire de France, de savoir quand commence la France.
Vous avez trois heures, allez-y, c'est parti.
À partir de quel moment est-ce qu'on peut décider qu'il y a justement une identité française qui va se définir dans un certain nombre de, notamment de plats.
Jean-Robert Pitt aurait pu collaborer à votre,
aha,
à votre ouvrage.
Et là, je vais vous dire, cher monsieur, Jean-Robert Pitt a collaboré à l'ouvrage.
C'est... c'est vrai.
Oui, c'est à lui qu'on doit l'article sur le vin.
Ah, mais j'ai pas vu. Ah, j'ai pas fait attention à son nom. Eh ben, bravo, bravo pour moi, alors là, bravo.
Challenge pour Jean-Robert Pitt, puisque quand on l'a contacté, on lui a juste demandé de nous faire le vin en 5 pages à l'échelle du monde. Donc, c'était pas facile, il y est arrivé.
Challenge relevé. Extrêmement bien.
Mais bon, on lui avait quand même enlevé 2-3 épines du pied, puisqu'on a une autre entrée sur le champagne, par exemple, une autre entrée sur le Porto. Donc, il pouvait éliminer de son article sur le vin tout ce qui n'était pas, au fond, le vin blanc, le vin rosé et le vin rouge.
D'accord. C'est un énorme travail. Est-ce qu'il y a eu des entrées où vous vous êtes dit, bah non, finalement, on ne va pas la prendre, on va faire un choix, ça oui, ça non. Est-ce que ça, c'est compliqué? C'est toujours compliqué de retirer.
Le vrai problème, c'est plutôt de trouver des auteurs. Parce que moi, je peux vous dire ce qui manque dans ce livre, parce que, mais ça, c'est de la contre-publicité, évidemment, mais il y a des entrées que j'aurais bien aimé, que nous aurions bien aimé avoir dans le livre, et les auteurs ont fait défaut. Par exemple, l'entrée qui me paraît, l'absence qui me paraît la plus dommageable, c'est la tortilla. C'est-à-dire tout ce qui, dans l'Amérique centrale d'abord, et puis de façon plus générale, concerne la farine de maïs. C'est quelque chose d'important. Et là, curieusement, on n'a pas trouvé l'auteur.
Est-ce qu'on peut parler, entre guillemets, d'archéologie? Parce que ça, c'est de l'histoire non écrite, souvent. C'est très compliqué. Ça. J'imagine que pour les auteurs, ça n'a pas dû être simple.
En fait, non, parce qu'on ne peut pas parler d'archéologie, parce que c'est une histoire des... Alors, ce n'est pas des objets, mais de quelque chose de matériel, mais c'est une histoire qui se fait à partir de sources écrites. Il y a des... si je prends un exemple dans le livre, c'est l'article qui a été écrit par Manuel Charpie sur le tapioca, par exemple, qui est une histoire fascinante. Le pauvre Manuel Charpie a constaté qu'il n'y avait pas de travaux suffisamment importants pour le tapioca et est parti à la recherche des sources. Le premier jet de son article faisait, pas dire de bêtises, 15 fois la taille de ce qu'on avait demandé.
D'accord.
Donc il a fallu faire suer le tapioca en quelque sorte.
Et ça, c'est le plus compliqué, évidemment.
Et c'est le plus compliqué. Ce n'est pas très facile. De toute façon, c'est aussi l'intérêt de ce genre de livres qui fait qu'ils sont, à mon avis, agréables à lire. C'est que quand on demande à un auteur qui connaît très bien son sujet parfois, comme Jean-Robert Pitt, par exemple, sur le vin ou Florent Quélier sur le sucre, et qu'on leur donne 5 pages... alors évidemment, c'est une grande frustration, ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils ont à dire, mais ça a une vertu, je pense, du point de vue des lecteurs, c'est qu'on les condamne à la littérature. Ils sont obligés de faire un effort d'écriture parce qu'ils vont compenser d'une certaine façon tout ce qu'ils ne peuvent pas dire en ce qu'ils pourraient dire en 500 pages par un effort d'écriture.
Synthétiser, il n'y a rien de plus dur.
Avec cette commande qu'on leur a passée, qui était la même commande qu'on avait faite pour le magasin du Monde et qui distingue ce genre d'ouvrage d'un dictionnaire, c'est qu'on leur demandait de partir d'une date clé, une date qui soit... qui permettent, à partir d'un exemple précis, de mettre en place les enjeux de chacun des produits. Alors, une façon simple de le faire, mais on leur a demandé de ne pas trop le faire, c'est quand le produit a une date d'invention. On peut partir de la date d'invention. Par exemple, c'est ce que fait Emmanuel Laurentin, qui a, dans l'article sur la margarine, puisque la margarine a une date de naissance, donc on part de l'invention de la margarine. Mais ça pose un problème, c'est que si on part de l'invention, on se retrouve dans ce problème dont on parlait tout à l'heure, qui est d'orienter la réflexion à partir de la diffusion du produit. Il s'invente, et on examine les modalités de sa diffusion. Et ça passe à côté de ce qui fait tout le charme de cette histoire, à mon avis, qui est l'étude des processus d'appropriation. Les produits, en fait, souvent existent depuis très très longtemps, même les plats existent depuis très très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est de voir le moment où, en circulant, les phénomènes d'appropriation vont nous révéler une réalité plus complexe, sociale, politique, économique, culturelle. Là aussi, on peut donner plein d'exemples. Il y en a que j'aime bien. Si vous allez dans les restaurants japonais et que vous demandez des makis, ce qu'on appelle parfois des California Rolls. En fait, si on refait cette histoire-là, c'est une histoire assez récente, en fait, qui date des années 1960 et qui tient à la vague d'émigration nippone en direction de la Californie. Quand les Japonais arrivent en Californie, ils arrivent avec leur sushi. Les Californiens des années 1960, le poisson cru, ça ne les tente pas trop. Donc, on remplace le poisson cru par de la chair de crabe et par de l'avocat, parce que ça, il y en a en Californie, et ça, on accepte de le manger. Et on invente de cette façon-là le California Roll à partir d'une base qui est une base japonaise.
Et c'est ça qui est génial, je trouve, dans cet ouvrage, c'est que, justement, on a cette histoire du monde. C'est pas que la mondialisation, c'est aussi l'histoire du monde qui continue. Et d'ailleurs, il y a aussi l'histoire des habitudes alimentaires. Je parlais un petit peu avant que ça commence, vous parlez de la charcuterie, d'ailleurs, notamment. Bah oui, on se rend compte, la charcuterie n'a plus la même image aujourd'hui qu'elle avait il y a 200 ans.
Non, alors là, pour le coup, par rapport aux trois phénomènes dont on parlait tout à l'heure, ce qui est décisif pour la charcuterie, pour l'histoire de la charcuterie, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire la façon dont se met en place, disons à partir des années 1870-1880, sur la côte est des États-Unis, enfin pas tout à fait la côte est, mais disons Cincinnati, Milwaukee, Chicago, ce que les Américains appellent les meat packers, hein, ces gens qui sont tout. Ils sont emballeurs, ils sont conditionneurs, ils sont transporteurs, ils sont charcutiers. Et ils mettent en place la charcuterie moderne, celle qu'on peut appeler la charcuterie industrielle, avec tous les problèmes que ça pose, puisque eux prétendent s'appuyer sur une histoire extrêmement longue qui remonterait au temps où les Gaulois exportaient leur jambon à Rome, par exemple.
Exact.
Cette idée qu'on va frotter la charcuterie de salpêtre pour empêcher le développement de ce qui est identifié au tournant des 19e et 20e siècles comme le botulisme. Mmh. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai, que ce salpêtre, ce nitrate de potassium est remplacé depuis le début du 19e siècle par du nitrate de sodium, qu'on appelait à l'époque le salpêtre du Chili, et qui va être surtout remplacé au 20e siècle par du nitrite de sodium, et qui a plein d'avantages, hein, parce que comment est-ce qu'on obtient une belle couleur
qui
rouge
change la couleur,
pour la charcuterie? C'est parce qu'en fait, en frottant la viande de sel, on transforme le fer en zinc, et c'est ça qui donne la couleur rouge à la charcuterie. Si vous utilisez des nitrates de potassium ou des nitrates de sodium ou du nitrite de sodium, vous allez accélérer ce processus. La charcuterie va avoir une couleur rouge très très rapidement, en quelques semaines, là où en fait ça prendrait 6 mois ou 1 an. Donc, on le répète depuis Benjamin Franklin, le temps c'est de l'argent, donc c'est très efficace. Mais le problème c'est que ces produits sont extrêmement nocifs pour la santé et que le seul produit de ce livre qui a été classé cancérogène certain par l'Organisation mondiale de la santé, ce sont les charcuteries industrielles.
Tout est question de temps maintenant. On a l'impression que le temps est plus le même aujourd'hui qu'avant. On s'en rend compte tous les jours. C'est une bêtise de dire ça, tellement c'est un lieu commun, mais c'est vrai. Quand on regarde la somme d'aliments, il n'y a pas que des aliments, parce que le sucre, c'est pas qu'un aliment. Enfin bref, on se dit mince, on a perdu des choses. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez noté en relisant?
En fait, on peut faire une histoire on peut faire l'histoire de l'alimentation de plein de façons. Il y en a une, évidemment, qui croise l'histoire de l'hygiène et de la santé. Donc, c'est ce qui concerne la charcuterie et bien d'autres produits. Mais c'est une histoire compliquée, puisque bien souvent, les produits qui se sont inventés depuis 2 siècles ont été inventés, notamment avec l'idée qu'ils allaient faire du bien à la santé. Donc l'exemple majeur, parce que ça reste vrai, c'est le yaourt, est étudié par Didier Nourisson dans le livre. Alors là, pour le coup, c'est un spécialiste du yaourt. Il avait consacré un livre à l'histoire du yaourt. Et histoire fascinante, puisque si on la refait... qui croise l'histoire des identités dont on parlait aussi. Parce que pourquoi le yaourt est bulgare alors que le yaourt, c'est un des plats les plus anciens qu'on puisse imaginer. Alors pourquoi il est bulgare, le yaourt? Parce que tournant 19e, 20e siècle, un savant qui est par ailleurs ukrainien et qui travaille à l'Institut Pasteur, et qui est peut-être bien le directeur adjoint de l'Institut Pasteur à l'époque, s'appelle Menchikov, qui va obtenir le prix Nobel de médecine au début des années 1910 pour ses travaux sur l'immunologie, cherche à comprendre pourquoi est-ce que les montagnards de Bulgarie vivent plus vieux que les autres. Et il a l'intuition que c'est lié à la consommation de yaourt. Et un bulgare à ce moment-là, Grigory Stamonov, découvre au tout début du XXe siècle le processus qui fait que le lactose du lait se transforme en acide lactique et que ça a des incidences sur la santé. Il vient présenter ça à Paris, à l'Institut Pasteur, et là, on comprend à ce moment-là ce qui se passe dans le yaourt à l'aide de ce cas bulgare. Et des industriels dans la foulée, des industriels très malins, à Paris, à Barcelone, vont créer les premières fabriques de yaourt qui vont se présenter comme des fabriques de yaourt faites selon le procédé du professeur Menjikov et assurant que c'est bon pour la santé. Ces deux industriels sont d'ailleurs des gens qui viennent de l'Empire ottoman. Alors, vous connaissez très certainement celui qui est à Barcelone. Il s'appelait Isaac Carasso et il va donner à son entreprise le nom de son deuxième fils qui s'appelait Daniel. Et le diminutif catalan de son fils Daniel, c'est Danone. Et voilà comment est-ce que Danone naît à partir du yaourt dit bulgare.
Est-ce qu'il y a une entrée, dans le sens un produit, qui vous a surpris quand vous avez lu ? Est-ce que vous y...
Alors, il y en avait qui m'intéressaient pas mal. Par exemple, justement, la soupe feu.
Ouais.
J'avais...
s'écrit PHO.
PHO, enfin...
Avec
même,
un truc.
C'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Et j'étais très intéressé de confier cet article à un spécialiste de l'Asie du Sud-Est parce que j'avais cette vague idée, enfin, je connaissais ce mythe, selon lequel la soupe feu serait été une conséquence de la colonisation française en Asie du Sud-Est, avec cette idée que ça aurait été une adaptation au Vietnam du pot-au-feu français qui aurait donné son nom à la soupe feu des Vietnamiens. Et Pierre Journoux, qui écrit l'article, nous montre que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que à la cour de Hué au XVIIIe siècle, on servait déjà des lamelles de buffle dans cette espèce de bouillon gras et salé qu'aujourd'hui on appelle le feu.
Effectivement, il y en a plein d'autres, des comme ça, vous allez à chaque fois dire oh, « mince, c'est incroyable, je n'y pensais pas, bravo en tout cas ». Est-ce que, pour terminer, qu'on vous connaisse un petit peu mieux, allez, le livre que vous emporteriez si vous alliez sur une île déserte par hasard ?
Alors cette question-là tombe bien, parce que...
Vous partez sur une île déserte ?
Non, ah oui, ça, j'aimerais bien, mais
quelques
non.
Jours.
Mais on vient de me proposer de faire la préface d'un, la réédition, un livre qui avait disparu en poche et qui est sans doute un de mes livres préférés. Alors ça s'avoue peu de dire que c'est son livre préféré parce que l'auteur est un fiefé fasciste qui a été norvégien, qui a été le prix Nobel de littérature en son temps, mais il a été tellement fasciste qu'à la fin de sa vie, alors que le régime de Kiesling était tombé, il a quand même écrit une nécrologie de Hitler positive.
Mais non.
Si, Hitler s'était déjà suicidé. À ce moment-là, en général, les gens qui aimaient Hitler faisaient profil bas.
Hein. Oui.
Lui, pas du tout. Mais il a écrit ce livre magnifique. Donc, le personnage n'est pas très sympathique. Mais il a écrit ce livre génial qui s'appelle Mystère, au pluriel. Donc, l'auteur s'appelle Knut Hamsun.
Oui, j'allais vous demander.
Et voilà, ça, c'est vraiment un livre que j'ai lu plusieurs fois, que je trouve... C'est un roman qui est une réussite totale.
Génial. Mais c'est une vraie question, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut aimer un livre d'un auteur comme ça ? Est-ce qu'on peut regarder un film d'Eisenstein alors qu'il est profondément communiste ? C'est des vraies questions, mais là, il faudrait 3 heures, on n'a pas le temps. Le restaurant que vous nous conseilleriez pour manger un cassoulet ?
Ah oui, alors écoutez, je voudrais pas vous donner l'habitude que je vais dans les 3 étoiles, hein, mais là, je vais vous donner un 3 étoiles. Ça s'appelle, parce que c'est à côté de... Moi, je suis originaire des Corbières.
D'accord.
Et il y a une
bon vin.
Il y a du bon vin et il y a un grand restaurant préparé 160 euros pour le menu.
D'accord.
Qui s'appelle l'Auberge de Fonjoncouze, qui est d'ailleurs un des restaurants 3 étoiles les moins chers de France, puisqu'en fait, il est dans la campagne et donc difficile d'accès, donc il est beaucoup moins cher qu'un 3 étoiles à Paris.
Le menu à 160 euros, oui, à Paris...
Sans les vins.
Ah oui, mais à Paris, c'est même pas une entrée. Hein.
Non, mais voilà, l'Auberge de Fonjoncouze, donc je vous conseille ça.
Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de votre livre ?
Ah...
Pas facile comme question.
Non,
parce que il n'y a pas vraiment de message en réalité dans ce livre-là.
Non, on essaie de montrer un peu la complexité des mouvements. Par exemple, il faut reconnaître que le sous-titre du livre restitue assez mal le projet, parce que même si ça raconte bien les choses, mais il donne le sentiment que ce mouvement de mondialisation est irrépressible, univoque. Alors qu'en fait, on peut trouver dans le livre des tas d'exemples de plats qui résistent à la mondialisation, soit parce que les temps ne sont pas encore venus. Hein, on trouve maintenant, bien sûr, de l'injera dans les restaurants éthiopiens à Paris, mais enfin, ça reste quand même quelque chose de rare. Il y a des plats qui ne voyagent pas. Le beurre de yak, ça ne voyage pas. La salade d'algues des Philippines, ça ne voyage pas. Il y a des plats qui sont complètement en déshérence, et même heureusement d'ailleurs, qui sont interdits aujourd'hui, comme par exemple le ragoût de niglo. Qui est présenté par Marc Bordigoni dans le livre. Ouais, c'est un plat, alors c'est compliqué de nommer, disons un plat de cigane ou un plat manouche plus exactement. C'est de la viande de hérisson.
Ah oui.
C'est du ragoût de hérisson. Le hérisson est une espèce protégée aujourd'hui, donc vous n'avez pas mangé du hérisson, en théorie, même si en fait il suffit de faire une rapide enquête sur Internet pour s'apercevoir que chez les manouches, on continue à manger du hérisson dans des cas.
Oui, c'est leur animal totémique, en plus, le hérisson.
Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, ils le mangent.
Pourquoi vous vous êtes attribué le ketchup à vous-même ?
Parce que personne ne voulait le faire.
D'accord, c'est très bien.
Ça, c'est aussi le. C'est aussi
la meilleure des raisons.
C'est aussi le problème du directeur d'ouvrage qui se dit tiens, c'est une bonne idée, ça.
C'est bon, bah, personne. Et comment ça s'est passé d'ailleurs ? Vous vous êtes fait une réunion physique ou pas physique ? D'ailleurs, avec les X, il y a combien d'auteurs ? Parce que. Il y en a beaucoup et vous avez dit c'est...
Alors ça dépend. Au départ, nous, on pouvait avoir avec Pierre Saint-Garavelou, Pauline Labbé, Sophie Hogg, une idée de plat qui nous paraissait intéressant à mettre dans le livre. Parfois, donc, je vous dis, on n'a pas trouvé l'auteur, comme dans le cas de la tortilla, et celui-là, je n'ai pas fait. Et puis, d'autre part, on est allé voir les spécialistes de ce qu'on appelle dans l'université les aires culturelles, c'est-à-dire les différents lieux du monde, en leur demandant à chaque fois s'ils n'avaient pas une idée, justement, eux, que nous, on n'aurait pas, d'un plat qui permettrait de raconter des histoires originales. Donc, c'est comme ça qu'on a eu des idées qu'au départ, on n'avait pas, comme la chorba, cette soupe qu'on trouve depuis le Maroc jusqu'à l'Afghanistan, ou d'autres, par exemple le ceviche.
C'est comme ça qu'on dit, ceviche, jamais au reste.
Ceviche, Irène Favier vous racontera dans le livre le mystère qui entoure l'origine de ce mot, puisqu'il y a une hypothèse quand même raisonnable qui est de penser que ça vient de l'escabèche arabo-andalouse. Il y a une hypothèse beaucoup plus farfelue mais plus amusante qui consiste à dire qu'un marin anglais échoué sur les côtes du Pérou au XIXe siècle, on lui donne à manger du ceviche, c'est-à-dire donc de ce poisson cru, coupé dans du citron avec de la coriandre. Après, on peut ajouter beaucoup de choses, mais ça, c'est la base. Et du piment. Et qui, en mangeant ça, se serait écrié « son of a bitch » et que les locaux auraient entendu « ceviche ».
Oui.
C'est peu crédible.
Pour finir, vous avez pensé à mettre des... vous auriez pensé au départ à mettre des recettes ou pas ? Alors, vous êtes dit finalement il y a déjà 2000 pages, donc on va pas...
Oui, il n'y a pas 2000 pages, mais oui, c'est... En fait, pour être tout à fait franc, c'est une idée qu'on caresse avec les éditrices en se demandant si une deuxième version du livre qui maintiendrait les textes, sinon une sélection de textes avec des recettes pourrait pas être... une sorte de beau livre original.
Ce serait une belle idée, en tout cas. Il faut demander à Fayard. Je vous conseille vraiment ce livre, mesdames, messieurs. Sylvain Venner, bravo. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà la fin de ce numéro d'Expresso. Retrouvez toutes nos interviews sur timelinepodcast.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel invité.